بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. On était dans l'explication du hadith 7 de Riyad al-Salihin. Donc on répète le hadith, il dit: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي. Donc il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'année du pèlerinage d'adieu m'a visité alors que la maladie s'était intensifiée sur ma personne. Faqultu ya rasul Allah inni qad balagha bi min alwaj'i ma tara wa ana dhu malin wa la yarithuni illa ibnatun li afa atasaddaqu bi thuluthi mali. Donc il dit, ô messager d'Allah, la douleur m'a atteint comme tu le vois et je suis quelqu'un qui a de l'argent et ne méritera qu'une seule fille. Alors puis-je donc donner en aumône les deux tiers de mes biens? قال لا قلت فالشطر يا رسول الله قال لا قلت فالثلث يا رسول الله قال الثلث والثلث كثير أو كبير. Il lui a dit non. Alors il lui a dit, et la moitié? Il lui a dit non. Et il lui a dit, et le tiers? Il lui a dit, le tiers et le tiers c'est beaucoup.
إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس.
Il lui a dit, que tu laisses tes héritiers riches est meilleur pour toi que tu ne les laisses pauvres et qu'ils demandent aux gens.
وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي مْرَأَتِكَ.
Et tu ne dépenseras pas une dépense par laquelle tu recherches la face d'Allah sans que tu ne sois récompensé pour elle, même ce que tu mets dans la bouche de ta femme.
قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِ.
Il lui a dit, au messager d'Allah, serais-je laissé en arrière après mes compagnons? On avait vu, ça veut dire, parce que ça c'était à la Mecque. Il avait peur de mourir à la Mecque alors que lui il avait émigré de la Mecque à Médine. Parce qu'il détestait mourir dans ou revenir à l'endroit d'où ils avaient émigré.
قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون.
Il lui a dit, c'est comme s'il lui dit, même si tu es laissé en arrière, donc c'est-à-dire tu restes à la Mecque, tu ne commettras pas une action par laquelle tu cherches la face d'Allah sans qu'elle ne t'élève en degré. Et peut-être que tu vivras encore, tukhallaf, ici tukhallaf, c'est pas le même sens que le premier tukhallaf. Le premier tukhallaf, c'est dans le sens, tu seras laissé en arrière, ça veut dire tu resteras à Mecca. Et ici, il lui dit, j'espère que tukhallaf dans le sens que tu vivras, et c'est ce qui est arrivé. Jusqu'à ce que tu sois bénéfique pour des gens et que tu nuises à d'autres.
Allahumma amdi li ashabi hijratahum wa la taruddahum ala aqabihim.
Après, le prophète a fait cette dua: oh Allah, préserve pour mes compagnons leur hijra, leur migration, et ne les renvoie pas sur leurs pas.
لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة.
متفق عليه. Il dit, mais le perdant, entre guillemets, ou celui qui a été touché, le malheureux, c'est Sa'd ibn Khawla, le prophète sallallahu alayhi wa sallam regrettait pour lui qu'il soit mort à la Mecque. Donc ça c'est dans les deux sahih. Donc nous on avait déjà expliqué, on continue dans les fawaïd, c'est-à-dire ce qu'on retire du hadith. Là il parle des mérites de, on était dans le fait de visiter le malade. Donc il dit:
ومنها أن فيها جلبا للمحبة والمودة فإن الإنسان إذا عاد المريض صارت هذه العيادة في قلب المريض دائما على قلبه يتذكرها.
Ça on l'avait déjà lu. أما المعود, donc le bien que retire celui qui est visité pendant la visite du malade. On avait cité des biens, des bénéfices pour celui qui visite le malade. Là c'est pour celui qui est visité.
فإن له فيها فائدة أيضا لأنها تؤنسه وتشرح صدره ويزول عنه ما فيه من الهم والغم ومن المرض.
Il dit, il y a aussi un bénéfice pour celui qui est visité parce que ça lui fait une compagnie et sa poitrine s'ouvre, c'est-à-dire ça le réjouit et des soucis et même peut-être sa maladie va partir.
وربما يكون العائد موفقا يذكره بالخير يذكره بالخير والتوبة والوصية إذا كان يريد أن يوصي بشيء عليه من الديون أو غيرها فيكون في ذلك فائدة للمعود.
Et peut-être que la personne qui le visite est quelqu'un de bien qui va lui rappeler le bien et qui va lui rappeler
le repentir et qui va lui rappeler aussi le testament, si jamais il veut faire un testament pour certaines personnes, ou alors pour les dettes aussi. Donc il va lui rappeler ça.
ولهذا قال العلماء ينبغي لمن عاد المريض أن ينفس له في أجره أي يفرحه يقول ما شاء الله أنت اليوم في خير وما أشبهه.
Et il dit, c'est pour ça que les ulama ont dit, il convient à celui qui visite un malade qu'il le détende et qu'il lui dise quelque chose qui le rend heureux. Par exemple, il lui dit, Mashallah, aujourd'hui t'es bien. Ou quelque chose de semblable.
ليس لازما أن يقول له أنت طيب مثلا لأنه قد يكون اليوم أشد مرضا من أمس لكن يقول أنت اليوم بخير أو في خير لأن المؤمن كل أمره خير.
Il lui dit pas, Sheikh, il dit, tu es bien aujourd'hui. Parce que peut-être il est pire que la veille. Mais il lui dit, bon, là c'est un peu dur à traduire, un tatayib dans le sens, t'es en bonne santé. Alors qu'en vérité, il ne l'est pas. Mais il lui dit, ça va, t'es bien. Parce que de toute façon, le musulman, toutes ses situations sont bien. Donc il n'aura pas menti, c'est ça qu'il veut dire. Il n'a pas menti en disant ça.
In asabahu darra'un fahuwa fi khair, wa in asabahu sarra fahuwa fi khair.
Car le croyant, s'il est touché par un malheur, il est dans le bien. Et s'il est touché par un bien, il est dans le bien.
والأجل محتوم إن كان هذا المرض أجله مات وإن كان بقي وإن كان بقي له شيء من الدنيا بقي.
Et il faut savoir que le délai est décrété. S'il lui reste rien à vivre, il mourra. Et s'il lui reste, il vivra encore ce qu'il lui reste.
وينبغي أيضا أن يذكره التوبة لكن لا يقول له ذلك بصفة مباشرة لأنه ربما ينزعج
pardon, ويقول في نفسه لو أن مرضي غير خطير ما ذكرني بالتوبة. Et aussi il faut recommander à la personne de se repentir, mais pas de façon directe, parce que peut-être ça va nuire à la personne et elle va se dire au fond d'elle, si ma maladie n'était pas grave, il ne m'aurait pas conseillé le tauba. C'est-à-dire c'est comme si tu lui rappelais que sa maladie elle est grave, parce que ça sous-entend qu'il va bientôt mourir.
لكن يبدأ بذكر الآيات والأحاديث التي فيها الثناء على التائبين ما يتذكر فيه به المريض.
Mais il mentionne les versets, les hadiths qui parlent de qui vantent ceux qui se repentent, pour que celui qui est malade se rappelle.
وينبغي كذلك أن يذكره الوصية لا يقول له أوصي فإن أجلك قريب لو قال هكذا زجعه بل مثلا يذكره بقصص واردة عليه.
Et pareil, il lui rappelle le testament, mais pas de façon directe. Il lui dit pas fais ton testament. Il lui dit par exemple, il lui dit pas fais ton testament parce que ta mort est proche. Il lui dit par exemple, il lui raconte des histoires qu'il connaît sur le testament.
قال أهل العلم وينبغي أيضا إذا رأى منه تشوفا إلى أن يقرأ عليه فليقرأ عليه ينفث عليه بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
Et les gens de science ont dit, il convient aussi s'il voit que la personne aimerait qu'il lise sur lui le Coran alors qu'il lit sur lui. Et aussi il postillonne, comme ça a été rapporté du prophète, et c'est-à-dire il postillonne avec les doigts et les versets, comme ça a été rapporté du prophète.
مثل قوله, comme il va citer un hadith ici, Allahumma rabban nas adhi bil ba's,
comme la doua qui dit, oh Allah, le Dieu des hommes, fais partir le mal, ishfi anta shafi, guéris, c'est toi le guérisseur, la shifa illa shifa'uk. D'une guérison, il n'y a de guérison que la tienne. Shifa'an la yughadiru saqama. Une guérison qui ne laisse pas de maladie.
Wa mithla qawlihi rabbana allahu alladhi fis sama' taqaddasa ismuk amruka fis sama'i wal ard kama rahmatuka fis sama'.
Donc l'autre doua ici qui cite faj'al rahmataka fil ard anta rabbut tayyibin ighfir lana habwana wa khatayana anzil rahmatan min rahmatik wa shifa'an min shifa'ik ala hadha al waja' fayabra. Donc c'est une dua, une demande de miséricorde à Allah qui guérisse pardon, cette maladie.
أو يقرأ عليه بسورة الفاتحة لأن سورة الفاتحة رقية يقرأ بها على المرضى وعلى الذين لدغتهم العقرب أو الحية وما أشبه ذلك.
Ou alors il lit la sourate al-Fatiha car elle est un exorcisme, elle est une guérison pour les malades et pour ceux qui ont été mordus par un scorpion ou un serpent.
المهم أنه إذا رأى من المريض أنه يحب أن يقرأ عليه فليقرأ عليه لئلا يلجئه إلى طلب القراءة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت مع أمتي 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب
وقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقوله لا يسترقون أي لا يطلبون أحدا يقرأه عليهم. Et aussi, s'ils voient que la personne veut lire, voudrait qu'il lise sur elle, alors ils s'empressent de lire avant que la personne ne lui demande. Comme ça, ça évite que la personne lui demande. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'ai vu dans ma communauté 70 000 personnes qui entrent au paradis sans rendre de compte et sans châtiment. Et il a dit, ce sont ceux qui ne demandent pas. La yastarqun, shiridi, ça veut dire, ils ne demandent pas que quelqu'un lise sur eux, leur fasse al-ruqya.
كذلك أيضا إذا رأيت أن المريض يحب أن تطيل المقام عنده فأطل المقام فأنت على خير وعلى أجر.
Il dit, si aussi tu vois que la personne elle aimerait que tu restes longtemps avec elle, alors reste longtemps parce que tu es dans du bien et tu es récompensé.
أطل المقام عنده وأدخل عليه السرور.
Reste longtemps auprès de lui et réjouis-le.
ربما يكون في دخول السرور على قلبه سبب لشفائه.
Il dit peut-être que le fait de le réjouir sera une cause pour sa guérison. Car le bonheur du malade et le fait que sa poitrine s'ouvre, donc en français je ne sais pas si ça se dit, mais c'est ça la traduction littérale, que sa poitrine s'ouvre, c'est-à-dire qu'il soit détendu, qu'il soit réjoui, fait partie des plus grandes causes de guérison. Donc reste longtemps avec lui jusqu'à ce que tu vois qu'il s'ennuie. C'est-à-dire qu'il est lassé de ta présence.
أما إذا رأيت أن المريض متكلف ولا يحب أنك تبقى أو يحب أن تذهب عنه لكي يبقى مع أهله ويأنس بهم فلا تتأخر اسأل عن حاله ثم انصرف.
Au contraire, si tu vois que le malade, il est, ça lui pèse que tu restes là et il n'a pas envie que tu restes. Et il aimerait bien que tu partes pour pouvoir rester avec sa famille. Alors ne tarde pas avec lui. Demande comment il va et va-t'en.
ففي حديث سعد بن أبي وقاص مشروعية عيادة المريض ومن فوائده حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك أن النبي أحسن الناس خلقا لأن الله قال نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. فأعظم الناس خلقا وأحسن الناس خلقا خلقا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
Il dit aussi, parmi ce qu'on profite du hadith, c'est le bon comportement du prophète, et sans aucun doute il était l'homme au meilleur comportement. Et dans la sourate Al-Qalam il est dit, donc nun, je jure par la plume, et ce qu'ils écrivent, par le bienfait de ton Seigneur tu n'es pas un fou, et tu auras certes une récompense qui ne s'épuise pas, et certes tu es doté d'un grand comportement.
ولهذا كان يعود أصحابه يزورهم ويسلم عليهم حتى إنه يمر بالصبيان الصغار فيسلم عليهم صلوات الله وسلامه عليه.
À tel point qu'il visitait ses compagnons et il les visitait quand ils étaient malades, il leur donnait le salut et même quand ils passaient auprès des petits enfants, il leur donnait le salut.
ومنها أنه ينبغي للإنسان مشاورة أهل العلم لأن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه استشار النبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يتصرف بشيء من ماله.
Et aussi parmi les profits du hadith, c'est qu'il convient à la personne de consulter des gens. Car Sa'd, quand il a voulu dépenser de son argent, il a consulté le prophète صلى الله عليه وسلم.
فقال يا رسول الله إني ذو مال كثير ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا.
Et il lui a dit, comme on a dit, est-ce que je peux donner, j'ai de l'argent et je n'ai que ma fille pour mériter, alors est-ce que je peux donner en aumône les deux tiers de mes biens?
Ça montre qu'il faut demander aux gens de science et aux gens qui ont rai, c'est-à-dire des bonnes opinions, des gens intelligents.
وكل إنسان بحسبه فمثلا إذا كنت تريد أن تقدم على شيء من أمور الدين فشاور أهل العلم لأنهم أعلم بأمور الدين من غيرهم.
Et c'est chacun selon sa situation. Si par exemple tu veux t'avancer dans quelque chose qui concerne la religion, alors demande aux gens de science, car ce sont eux les plus renseignés sur les choses de la religion.
إذا أردت أن تشتري بيتا فشاور أصحاب المكاتب العقارية.
Quand tu veux acheter une maison, consulte les gens des bureaux de, comment on appelle ça, dans l'immobilier.
إذا أردت أن تشتري سيارة
فاستشر المهندسين في ميكانية في ميكانيكية السيارات وهكذا. Quand tu veux acheter une voiture, consulte les ceux qui sont spécialistes, les ingénieurs en mécanique. Et ainsi de suite. Ça me rappelle une histoire où un savant, il y a quelqu'un, donc là c'est pas le shir qui la cite, un savant, il dit, on lui dit, dans un restaurant, c'est un des gens du livre, il lui dit, vous dites que dans votre livre il y a tout, parce qu'Allah il dit dans le Coran, wa kulla shay'in fassalnahu tafsila, toute chose nous l'avons détaillée. Et il lui a dit, bah explique-moi comment on fait ce plat de cuisine à partir du Coran. Et il lui a dit, na'am, dans le Coran il y a c'est écrit comment tu peux le faire. Il lui dit c'est quoi? Il lui a dit fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Il dit en fait il a d'abord il a appelé le cuisinier et il lui a dit comment on fait. Et il lui a dit bah voilà on fait comme ça comme ça. Et il dit voilà la réponse du Coran. Et l'autre il lui a dit c'est pas dans le Coran. Il dit si parce que le Coran il m'a dit fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Donc là il a demandé aux gens du rappel en ce qui concerne le domaine dans lequel il est en train de parler. Ou alors il y a une autre histoire où un homme il a dit si une personne je crois elle écrase un bourdon pendant son pèlerinage. En fait un savant, je crois c'est l'imam Shafi'i, il a dit oh vous les gens, posez-moi des questions car il a dit ana min ar-rasikhina fil 'ilm, je suis parmi les gens ancrés dans la science. Et quelqu'un il lui a dit je vous répondrai à partir du livre d'Allah. Et une personne elle lui a dit eh ben, qu'est-ce qui se passe pour quelqu'un qui est au pèlerinage et il écrase un bourdon? Zambour, je sais plus comment ils disent. Ouais, c'est comme une abeille, mais en plus gros. Ouais. Et il a dit, il lui a dit, donc le Coran nous dit, وَمَا أَتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا. Ce que le prophète vous donne, prenez-le. Et le prophète, il nous a dit, فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ. Et le prophète il nous a dit accrochez-vous à la sunna des califes bien guidés entre guillemets, des successeurs bien guidés. Et Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu a été questionné sur cette question, il a dit il n'y a pas de mal. Donc il dit voilà la réponse du Coran. En fait c'est parce que le Coran renvoie à la sunna qui renvoie aux actes des compagnons. ولهذا يقال ما خاب من استخار ولا ندم من استشار. Subhanallah. Il dit le proverbe qui dit ne perd pas celui qui stakhar, ça veut dire qui demande l'avis, ou alors qui fait salat istikhara, je sais pas quel sens est voulu ici, et ne regrette pas celui qui demande conseil, ou celui qui consulte. Wal insanu bila shak la yanbaghi lahu an yukammila nafsah. Man idda'a al-kamala li nafsihi fa huwa an-naqis. Et il convient à la personne de ne pas penser qu'elle est parfaite. Celui qui prétend qu'il est parfait, c'est celui-là qui est diminué. بل لا بد أن يراجع خصوصا في الأمور الهامة التي تتعلق بمسائل الأمة فإن الإنسان قد يحمله الحماس والعاطفة على فعل شيء هو في نفسه حق ولا بأس به لكن التحدث عنه قد يكون غير طيب إما في الزمان أو في المكان أو في الحال. Il dit donc la personne elle doit demander aux autres surtout dans les grands sujets qui concernent la communauté musulmane. Car la personne elle peut être poussée par la atifa, c'est-à-dire les sentiments, ou le hamas, c'est-à-dire le hamas, j'arrive jamais à le traduire. Hamas c'est le fait d'être poussé, quoi, d'avoir des sentiments qui te poussent à faire quelque chose, entre guillemets la motivation. Et donc il prend une décision en lui-même, et peut-être que cette décision elle est bonne, mais il ne convient pas d'en parler dans un certain moment ou dans un certain endroit ou dans une certaine situation. Donc c'est-à-dire il ne faut pas qu'il se laisse emporter par ses sentiments. ولهذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء الكعبة على قواعد إبراهيم خوفا من الفتنة. C'est pour ça par exemple que le prophète صلى الله عليه وسلم a délaissé le fait de reconstruire la Kaaba sur les bases sur lesquelles l'avait construit Ibrahim, donc qui était plus grande que la Kaaba actuelle, par peur de la fitna. فقال لعائشة رضي الله عنها لولا أن قومك حديث عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين بابا يدخل منه الناس وبابا يخرجون منه. Et il a dit à Aïcha, si ton peuple n'était pas nouveau dans l'islam, j'aurais reconstruit la Kaaba sur les bases d'Ibrahim et je lui aurais mis deux portes, une porte par laquelle les gens entrent et une porte par laquelle les gens sortent. Min ajli an yatamakkan an-nas min dukhul bayt Allah. Donc Cheikh dit c'est pour que il aurait fait ça pour que les gens puissent rentrer dans la Kaaba. Lakin taraka dhalika khawf al-fitna ma'a kawnihi maslaha. Mais il a délaissé cet acte par peur de la fitna, des troubles, alors que cet acte en lui-même il est bien.
بل أعظم من ذلك أن الله نهى أن نسب آلهة المشركين مع أن آلهة المشركين جديرة بأن تسب وتعب وينفر منها.
Et pire que ça encore, c'est qu'Allah nous a interdit d'insulter les divinités des polythéistes, alors que les divinités des polythéistes sont dignes d'être insultées et d'être critiquées, et qu'on mette en garde contre elles.
لكن لما كان سبها يؤدي إلى سب الرب العظيم المنزه عن كل عيب ونقص قال الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون.
Mais comme le fait d'insulter les fausses divinités peut conduire à ce que les gens insultent Allah, qui lui est exempt de tout défaut et de tout manquement, alors Allah a dit, n'insultez pas ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah, car ils insulteraient Allah par transgression et sans science. Falmuhim, donc c'est-à-dire Allah il a interdit quelque chose qui en lui-même n'est pas mal, mais parce qu'il mène à un mal.
Falmuhim annahu yanbari an na'lama anna shay'a qad yakunu hasanan fi haddi dhati wa fi mawdu'ihi, lakin la yakunu hasanan wa la yakunu min al-hikmati. ولا من العقل ولا من النصح ولا من الأمانة أن يذكر في وقت من الأوقات أو في مكان من الأماكن أو في حال من الأحوال وإن كان هو في نفسه حقا وصدقا وحقيقة واقعة.
Il dit donc, en tout cas, nous devons savoir qu'une chose peut être bonne en elle-même et dans son sujet, mais il n'est pas bon et il ne fait pas partie de la sagesse, ni de la raison, ni du conseil, ni de l'amana, qu'on la mentionne dans un certain moment, ou dans un certain endroit, ou dans une certaine situation, même si la chose en elle-même elle est bonne et elle est vraie.
ومن ثم كان ينبغي للإنسان أن يستشير ذوي العلم والرأي والنصح في الأمر قبل أن يقدم عليه حتى يكون لديه برهان لأن الله قال لأشرف خلقه عليه الصلاة والسلام وأسدهم رأيا وأبلغهم نصحا محمد صلى الله عليه وسلم قال فَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ.
Donc il convient à la personne de consulter les gens de science et les gens d'opinion et de conseil dans une affaire avant de se lancer dedans, pour que ensuite il soit clairvoyant. Il a un burhan min Allah. Il a un burhan, c'est-à-dire il fasse sa chose avec clairvoyance. Car Allah a conseillé à la plus noble de ses créatures et à celle d'entre elles qui a la meilleure opinion et qui est la plus de bons conseils, la plus sincère envers les gens, qui est Muhammad, il lui a dit et demande leur conseil dans tes affaires, shawirhum, conseille-les dans tes affaires, alors que c'est lui le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui a les meilleures opinions, et pourtant Allah lui a dit shawirhum fil amr, c'est-à-dire consulte-les dans tes affaires.
وهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أسد الناس رأيا وأرجحهم عقلا وأبلغهم نصحا.
Donc Cheikh continue un peu dans ce même discours. Il parle du fait de demander conseil, parce qu'une personne elle peut avoir une bonne intention, mais à la fin elle fait des catastrophes.
ومن الفوائد أنه ينبغي للمستشير أن يذكر الأمر على ما هو عليه حقيقة لا يلوذ يمينا ولا شمالا بل يذكر الأمر حقا على ما هو عليه حتى يتبين للمستشار حقيقة الأمر ويبني مشورته على هذه الحقيقة ولهذا قال سعد إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة.
Aussi on peut profiter du hadith, c'est qu'il convient à celui qui consulte autrui de dire la chose telle qu'elle est, de ne pas dévier à droite et à gauche et d'essayer de déguiser les choses. Mais il doit dire la chose telle qu'elle est, pour que celui à qui demande conseil et celui qui consulte, il conçoive la chose telle qu'elle est et puisse construire sur son conseil sur la réalité. C'est pour ça que Saad il a dit la vérité, il a dit j'ai de l'argent et je n'ai qu'une fille qui mérite.
والمستشار عليه أن يتقي الله عز وجل فيما أشار فيه وأن لا تأخذه العاطفة في مراعاة المستشير.
Et celui à qui on demande conseil, celui qui est consulté, al-mustashar, lui doit craindre Allah dans ce dans quoi on lui a demandé, et qu'il ne doit pas être pris par les sentiments dans le conseil qu'il va donner à la personne.
لأن بعض الناس إذا استشاره الشخص ورأى أنه يميل إلى أحد الأمرين أو الرأيين ذهب يشير عليه به ويقول أنا أحب أن أوافق الذي يرى أنه يناسبه وهذا خطأ عظيم بل خيانة.
Il dit parce qu'il y a des gens, quand tu leur demandes conseil, quand on leur demande conseil et ils voient que la personne qui lui demande conseil, ils penchent vers une des deux solutions. Donc lui, il se dit, je vais lui conseiller ce vers quoi il penche. Parce que j'aime bien lui dire ce qui lui convient. Il dit ça, c'est une grande faute et c'est même une trahison.
الواجب إذا استشارك أن تقول له ما ترى أنه حق وأنه نافع سواء أرضاه أم لم يرضه.
Ce qui est obligatoire quand il te consulte, c'est que tu lui dises ce que tu vois être la vérité, que ce soit et ce qui est utile pour lui, que ça lui fasse plaisir ou pas.
وأنت إذا فعلت هذا كنت ناصحا وأديت ما عليك ثم إن أخذ به ورأى أنه صواب فذاك وإن لم يأخذ به فقد برئت ذمتك فقد برئت ذمتك.
Il dit ensuite, s'il fait ce que tu lui as dit, c'est-à-dire quand tu fais ça, là tu auras été nasih, de bon conseil, et tu auras fait ce qu'il t'était dû. Ensuite, si lui te suit et il voit que c'est ça la bonne solution, tant mieux entre guillemets, et s'il ne veut pas te suivre, toi tu auras fait ce que tu devais faire.
مع أنك ربما تستنتج شيئا خطأ قد تستنتج أنه يريد كذا وهو لا يريده فتكون خسرانا من وجهين من جهة الفهم السيء ومن جهة القصد السيء.
Et en plus peut-être que tu t'imagines que lui il penche vers une des deux choses alors que c'est pas vrai, donc tu t'es trompé dans deux choses, tu l'as mal compris et en plus tu as une mauvaise intention. Ensuite on passe quelques passages. Il dit aussi, parce qu'en fait là pourquoi j'ai passé, c'est parce qu'il répète un peu ce qu'on a déjà dit. Donc comme déjà c'est long parce qu'on lit, on traduit, quand je peux sauter des passages, je les saute.
ومنها أن الإنسان إذا أنفق نفقة يبتغي به وجه الله فإنه يثاب عليها حتى النفقات على أهله وعلى زوجته بل وعلى نفسه إذا ابتغى بها وجه الله أثابه الله عليها.
Ça on l'a déjà vu, c'est que quand une personne, mais je voulais le répéter par rapport au chapitre, si une personne fait une dépense quelconque par laquelle il recherche la face d'Allah, alors il sera récompensé, même les dépenses qu'il fait envers sa famille ou sa femme ou même sa propre personne.
وفيه إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يستحضر نية التقرب إلى الله في كل ما ينفق حتى يكون له في ذلك أجر.
Et ça montre aussi qu'il convient à la personne qu'elle se rappelle d'avoir l'intention de se rapprocher d'Allah dans tout ce qu'elle dépense pour qu'elle puisse avoir une récompense pour cela.
وقوله اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم.
Donc là il parle pourquoi le prophète a dit « Oh Allah, préserve pour mes compagnons leur hijra, leur migration. » Donc on a ce qu'il dit, si on l'a déjà expliqué. Et ensuite il dit, quand il a dit celui qui a été le malheureux, c'est Sa'd ibn Khawla. Pourquoi il a dit ça? Donc il dit Sa'd ibn Khawla radiyallahu anhu min al-muhajirin alladhina hajaru min Makkah. Donc Sa'd ibn Khawla faisait partie des émigrés qui avaient immigré de la Mecque à Médine.
Walakin Allah qaddara an yamuta fiha famata fiha.
Mais Allah a destiné qu'il meure à la Mecque.
فرث له النبي صلى الله عليه وسلم أي توجع له أن مات بمكة.
Et le prophète a souffert du fait qu'il meurt à la Mecque.
وقد كانوا يكرهون للمهاجر أن يموت في الأرض التي هاجر منها.
Car il détestait, donc le prophète et ses compagnons détestaient qu'une personne meure dans le pays d'où elle avait émigré. On passe au hadith suivant.
إذ عن أبي هريرة عبد الرحمن بن سخر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم رواه مسلم.
Le hadith dit ici, Allah ne regarde pas vos corps et ne regarde pas vos formes, mais il regarde vos cœurs. Ça c'est dans Sahih Muslim. Donc le cheikh dit dans l'explication,
قوله ولكن ينظر إلى قلوبكم وفي لفظ قلوبكم وأعمالكم.
Dans une autre version il est dit mais il regarde vos cœurs et vos actes.
هذا الحديث يدل على ما يدل عليه قول الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
Et ce hadith donc montre ce que montre la parole d'Allah qui dit ô vous les gens, nous vous avons créés d'un mâle et d'une femelle, et nous vous avons fait en peuple et en tribu, afin que vous vous entreconnaissiez, et le plus noble d'entre vous auprès d'Allah, c'est le plus pieux.
فالله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى العباد إلى أجسامهم هل هي كبيرة أو صغيرة أو صحيحة أو سقيمة ولا ينظر إلى الصور هل هي جميلة أو ذميمة.
Donc Allah ne regarde pas chez ses serviteurs leur corps, est-ce qu'ils sont grands ou petits, est-ce qu'ils sont malades ou en bonne santé. Et il ne regarde pas les formes, est-ce que la personne est belle ou pas.
كُلُّ هَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ عِنْدَ اللَّهِ.
Tout ça, ça ne compte pas auprès d'Allah.
وَكَذَلِكَ لَا يَنْظُرُ إِلَى الْأَنْسَابِ هَلْ هِيَ رَفِيعَةٌ أَوْ دَنِيَةٌ وَلَا يَنْظُرُ إِلَى الْأَمْوَالِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَى شَيْءٍ مِنْ هَذَا أَبَدًا.
De même, Allah ne regarde pas les ascendances. Il ne regarde pas si ton ascendance elle est élevée ou si elle est basse, c'est-à-dire si tu es d'une noble ascendance, d'une noble lignée ou pas. Il dit, et de même il ne regarde pas à la fortune. Allah ne regarde rien de tout ça.
لَيْسَ بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَ خَلْقِهِ صِلَةٌ إِلَّا بِالتَّقْوَى.
Car il n'y a pas de lien entre Allah et sa créature si ce n'est sa crainte, la piété.
فَمَنْ كَانَ لِلَّهِ أَتْقَى كَانَ مِنَ اللَّهِ أَقْرَبُ وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ أَكْرَمُ.
Donc plus la personne est pieuse et plus elle est proche d'Allah et plus elle est noble auprès d'Allah.
إذن لا تفتخر بمالك ولا بجمالك ولا ببدنك ولا بأولادك ولا بقصورك ولا بسياراتك ولا بشيء من هذه الدنيا أبدا.
Donc ne te vante pas de tes biens, ne te vante pas de ta beauté, ni de ton corps, ni de tes enfants, ni de tes châteaux, ni de tes voitures, ni de rien des choses d'ici-bas.
إنما إذا وفقك الله للتقوى فهذا من فضل الله عليك فاحمد الله عليه.
Mais seulement si Allah t'a facilité à la piété, alors voilà la grâce d'Allah sur toi, donc remercie Allah.
وعلم أن الأعمال بالنيات والقلوب هي التي عليها المدار.
Et sache que les actes ne dépendent que des intentions et que tout tourne autour des cœurs.
كم من إنسان ظاهر عمله أنه صحيح وجيد وصالح لكن لما بني على خراب صار خرابا.
Combien de gens leurs actes en apparence sont bons et sont valables, mais comme il a été construit sur des ruines, il est lui-même en ruine. Ses actes sont eux-mêmes des ruines. Là on passe, le shir cite comme quoi tu peux trouver deux personnes qui en apparence font la même œuvre, alors que au fond auprès d'Allah elles sont différentes. Pourquoi? À cause de la niyya. Ça on l'a expliqué dans le premier hadith.
وإذا كان الله في كتابه وكان رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته يؤكدان على إصلاح النية فالواجب على الإنسان أن يصلح نيته يصلح قلبه ينظر ما في قلبه من الشك فيزيله إلى اليقين كيف ذلك.
Donc il dit si Allah dans son livre et le messager صلى الله عليه وسلم dans sa sunna ont tellement insisté sur le fait de corriger son intention, alors il est obligatoire de corriger son intention et de corriger son cœur. Donc la personne toujours regarde son cœur et elle regarde ce qu'il y a comme doute dans son cœur et essaye de les enlever et de les remplacer par la certitude. Mais il dit comment est-ce qu'on fait ça? Donc là il répond
يَكُونُ ذَلِكَ بِنَظَرِهِ إِلَى الْآيَاتِ.
Il dit en regardant aux signes.
قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ.
Car Allah dit certes dans la création des cieux et de la terre et dans la divergence de la nuit et du jour, il y a des signes pour les gens intelligents.
وقال إن في السماوات والأرض لآيات للموقنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون.
Et dans l'autre verset, il est dit et dans les cieux et la terre, il y a des signes pour les croyants et dans votre création et dans ce qu'Allah disperse comme bête, il y a une preuve pour un peuple qui est certain. C'est-à-dire pour des gens qui ont la certitude.
فَأَنْتَ انْظُرْ فِي آيَاتِ اللَّهِ. Donc j'ai dit, donc toi regarde dans les signes d'Allah.
إِذَا أَلْقَ الشَّيْطَانُ فِي قَلْبِكَ الشَّكْ فَانْظُرْ فِي آيَاتِ اللَّهِ.
Il dit quand le diable Mets des doutes dans ton cœur, alors regarde les signes d'Allah. Anzur ila hadha al-kawn man yudabbiruhu. Regarde cet univers, qui le gère. Anzur kayfa tataghayyaru al-ahwal. Regarde comment les choses elles changent. كيف يداور الله الأيام بين الناس حتى تعلم أن لهذا الكون مدبرا حكيما عز وجل.
Regarde comment les situations et les jours font changer ce qu'il y a, font changer les gens et font changer les situations des gens, à tel point que tu sauras que cet univers il a un gérant sage qui est Allah عز وجل.
Là, on peut rajouter, parce que nous, en Occident, on est touché par plus de doutes que ça. Là, les chéris parlent des doutes sur Allah, mais en Occident, on est, comme l'islam il est attaqué, les musulmans ils sont attaqués, et ben, on est touché de toutes parts. Des doutes sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, des doutes sur, sur le hadith, des doutes sur les sahaba, etc., etc. Donc, à chaque chose, on revient, comme là, en ce qui concerne Allah, on revient au verset qui parle sur les signes d'Allah. Donc si on parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on revient aux signes du prophète. Et les signes du prophète, il y a à la fois ces signes dans ses actes, et après il y a aussi les signes qui sont des miracles. C'est-à-dire les signes, quand je dis les signes dans ses actes, hors des miracles. C'est comment cette personne elle peut être un menteur et se battre pendant 23 ans pour la même cause, sans accumuler aucune richesse. Quand on lui demande quand on lui propose la richesse pour délaisser sa cause, il veut pas la richesse. Les gens qui étaient autour de lui, ils attestaient tous qu'il n'était pas un menteur, même quand ils étaient ses ennemis, etc. etc. C'est-à-dire celui qui cogite sur la sira du prophète, la vie du prophète, et ses 23 ans de prophétie, il peut pas dire que c'est un menteur. C'est impossible. La raison, elle accepte pas ça. Parce que si c'est un menteur, ça veut dire que c'est une personne qui ment et qui prétend être un prophète. Et il a toutes les caractéristiques de l'inverse de ça. Parce que quelqu'un qui ment et qui prétend être un faux prophète, ça veut être quelqu'un qui veut soit de l'argent, ou soit il veut des femmes. Quelqu'un il va nous dire, bah justement les femmes il les a eues. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est vrai, il s'est marié avec 9 femmes. La plupart elles avaient plus de 50 ans, plus de 60 ans. Donc celui qui veut des femmes, il prend pas des femmes de 50 ans. Des veuves qui avaient plusieurs enfants. Il va prendre des filles de 20 ans. Et il en a pris qu'une, qui était jeune, c'était Aïcha radiallahu anha. Ou alors on va dire il voulait l'argent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mort, il avait un bouclier en gage chez un juif, ça veut dire il avait rien, et il dormait sur des choses faites en palmier qui lui laissaient des traces dans ses côtes. On va dire il voulait le prestige. Le prestige il l'a pas, puisqu'à chaque fois il dit ne me mettez pas une place au-delà de celle à laquelle Allah m'a mis. Comme quand il disait La tutruni kama atratin nasara ibn Maryam. Innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasulu. Ne n'exagérez pas mon sujet comme l'ont fait les chrétiens avec le fils de Marie. Je ne suis qu'une créature d'Allah, alors dites le serviteur d'Allah et son messager. S'il veut le prestige, il ne va pas faire ça. Il va se laisser diviniser, il va se laisser glorifier, etc. etc. Quand Mu'adh ibn Jabal, il revient du Shem, et il a vu au Shem que les chrétiens, pour saluer leurs savants, ils se prosternent devant eux. Et il vient, il s'est prosterné devant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, il lui a dit, Mahadha ya Mu'adh. Il lui a dit, c'est quoi ça? Et il lui a dit, j'ai vu les gens du livre faire ça. Et il lui a dit, le hadith dans le sens, il lui a dit, Laysa sujud illa lillah. La prosternation n'est que pour Allah. S'il veut se faire glorifier, jamais il va lui dire ça. Etc. etc. C'est-à-dire, il y a aucune. Tu peux pas trouver une cause qui l'aurait poussé à faire tout ce qu'il a fait. Et aucune cause. Donc ça, c'est réfléchir sur le prophète. Après, si on nous met en doute sur la sunna, il faut connaître la sunna. L'histoire de la sunna, l'histoire du hadith, comment les livres de hadith, comment le hadith il a été préservé, et tu te rendras compte, de la même façon qu'il n'est pas possible que cette sunna elle soit pas fiable, et ainsi de suite. Pour chaque chose on revient à ses signes. Et en plus, ça c'est pour la vie simple du prophète et ses caractères. Maintenant on peut aussi parler de ses miracles, et les miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont plusieurs centaines voire plusieurs milliers. Il y a des miracles qui sont des miracles qui ont été vus par des compagnons, et certains de ces miracles, ça me rappelle une fois j'avais eu un dialogue avec un chrétien, et
Donc il me parlait de l'islam, etc. Il essayait de critiquer. Et je lui ai dit, toi, quand tu crois à un miracle de Jésus, tu crois, je veux dire, tu as lu ça dans l'évangile, mais c'est tout. La personne même qui a écrit l'évangile, elle l'a pas vu. Elle a même pas vu quelqu'un qui l'a vu. Il me dit, ouais, c'est vrai. Je dis, alors que nous, par exemple, on sait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il a mis sa main dans l'eau, et l'eau, elle sortait de sa chair. À tel point que, plus à peu près 1000 personnes, ils ont fait les ablutions, ils ont bu de l'eau qui a jailli des mains du prophète. Je dis, mais moi, quand je te raconte ça, c'est écrit dans des livres. Et ces livres, dedans, il est écrit qui l'a transmis de génération en génération. Je dis, mais c'est pas seulement ça, c'est que tous ces bonhommes qui l'ont transmis, leur vie, elles ont aussi été enregistrées, on sait qui ils sont, quand est-ce qu'ils sont nés, comment ils étaient, est-ce qu'ils étaient de confiance ou pas, etc. Je dis, et ces miracles-là, ce miracle-là et d'autres encore, ils sont mutawatir, ça veut dire ils ont une quantité de chaînes de transmission qui fait que les personnes, elles n'ont pas pu se réunir pour l'inventer. Donc je lui ai dit, tu peux pas renier ce miracle, ni scientifiquement, ni historiquement, ni raisonnablement, ni rien du tout. Donc maintenant, dis-moi comment il a fait ça. Et tu peux pas le renier, parce que les livres, ils sont là, tout est... C'est renié. S'ils renient ça, il faut qu'ils renient leur histoire à eux. Parce que leur histoire à eux, elle est pas un dixième authentique comme la sunna du prophète. Et ça, c'est pour un miracle. Mais alors, combien de miracles? Comme par exemple, on avait dit la sourate Tabbat Yada Abi Lahabin Watab. Pardon, la sourate Alam Tara Kaifa Fa'ala Rabbuka Bi Ashabil Fil. Où Allah il raconte dans le qu'il a, il a envoyé une armée d'oiseaux pour détruire l'armée du roi du Yémen qui était venu attaquer la Kaaba avec des éléphants. Et cette histoire, elle s'est passée l'année de la naissance du prophète. Donc comment le prophète il va inventer une histoire sur une chose qui s'est passée l'année de sa naissance, alors qu'il y a des gens qui étaient vivants l'année de sa naissance. Et les gens dans sa ville, ils attendent que ça, qu'il fasse une erreur pour lui tomber dessus. Et pour dire, bah regardez, il s'est trompé, regardez, c'est un menteur, etc. Et ils n'ont rien trouvé. Donc si ça c'était faux, cette histoire, ils lui auraient sauté dessus en disant, ah bah là t'as menti. Mais eux-mêmes, ils ont acquiescé, parce qu'eux-mêmes, les koufars de Quraysh, ils étaient là pendant cette année-là, et ils l'ont vu ça. Donc ça, et la preuve, elle est là depuis 1400 ans dans le Coran. Donc historiquement, tu peux pas le renier que cette histoire, elle se soit passée. Donc, en tant que mécréant, qu'est-ce que t'as à dire sur ce sujet ? Qu'Allah il a envoyé une armée d'oiseaux pour bombarder de cailloux une armée qui était venue pour détruire la Kaaba. Est-ce que ça arrive tous les jours, ça, subhanallah? Ça prouve bien que la Kaaba, il y a quelque chose. Etc, etc. Et ça, pour les miracles, on ne peut pas les compter. Après, il y a les miracles aussi que des fois, les connaissances actuelles, elles nous dévoilent, comme on avait cité pour la salive du chien. Que le prophète, il a dit de laver 7 fois un plat où le chien, il a bu, dont une fois avec la poussière, avec la terre, pardon. Et maintenant, on sait pourquoi, c'est-à-dire scientifiquement, il y a des trucs qui montrent la sagesse qu'il y a là-dedans. Ou alors, on avait aussi cité l'exemple de la mouche. Quand il a dit, dans une des deux ailes, il y a un mal et dans l'autre, il y a le remède. Et on a cité comme quoi, dans les années 50, les scientifiques allemands, ils ont découvert ce qui correspond à ça. Ou alors, quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit à propos de la graine noire, Al-Habbatu Sauda, Dawa'un min kulli da illa al-maut. Quand il a dit c'est la Sauda, la graine noire, en français ils disent le cumin noir, c'est un remède pour toute maladie sauf la mort. Et quand il commence à se pencher dessus, ben, il découvre qu'effectivement elle soigne à peu près tout. Etc. On peut pas, en vérité, les miracles du prophète, on peut pas les compter. Donc si tu ajoutes, tu prends sa vie comment elle était et tous les signes de sincérité dont il a fait preuve, et à côté de ça, tu rajoutes tous les miracles. Comment tu peux le démentir, subhanallah? C'est impossible. C'est pour ça que c'est une grande preuve. Donc à chaque fois, pourquoi je raconte tout ça? C'est parce que Chiri dit comment tu soignes les doutes qui peuvent te venir. Donc là, il parlait les doutes à propos d'Allah, ben, tu reviens au signe d'Allah. Et pareil, les doutes à propos du prophète, eh ben, reviens à sa vie, reviens à ses miracles, etc. etc. Chaque chose, elle a ses médicaments. Ensuite, il dit Ash-shirku tahir qalbaka minhu. Il dit le shirk aussi, l'associationnisme, il faut purifier ton cœur de lui. Il dit, mais comment je me purifie du shirk? Donc Cheikh il dit, il dit, je me purifie en me disant à moi-même, inna an-nasa la yanfa'unani idha in 'asaytu Allah wa la yanqudhunani min al-'iqab
وَإِنْ أَتَعْتُ اللَّهَ لَمْ يَجْلِبُوا لِي إِلَيَّ الثَّوَابِ.
Il dit, c'est en me disant à moi-même, les gens ne me sont pas utiles si je désobéis à Allah et ne me sauveront pas du châtiment d'Allah. Et si je suis obéissant à Allah, c'est pas eux qui vont me récompenser. Donc, pourquoi faire de l'ostentation? C'est ça qu'il veut dire. Pour soigner ton âme de l'ostentation, il faut réfléchir à la situation des gens dont tu cherches le regard. Tu te dis, bah, c'est que des créatures. S'ils me blâment, ça ne va rien me faire de mal. Ça ne va pas me châtier. Et s'ils me louent, ils ne vont pas non plus me donner de récompense. Donc au final, j'ai à plaire qu'à Allah. Et ça va te pousser à être sincère.
فَالَّذِي يَجْلِبُ الثَّوَابَ وَيَدْفَعُ الْعِقَابَ هُوَ اللَّهُ.
Parce que celui qui ramène la récompense et repousse le châtiment, c'est Allah.
إِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فَلِمَاذَا تُشْرِكُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَ.
Et s'il en est ainsi, pourquoi tu associes à Allah?
لِمَاذَا تَنْوِي بِعِبَادَتِكَ أَن تَتَقَرَّبَ إِلَى الْخَلْقِ.
Pourquoi par ton adoration tu cherches à te rapprocher des gens?
وَلِهَذَا مَنْ تَقَرَّبَ إِلَى الْخَلْقِ بِمَا يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللَّهِ ابْتَعَدَ اللَّهُ عَنْهُ وَابْتَعَدَ عَنْهُ الْخَلْقِ.
Il dit, c'est pour ça que celui qui cherche à s'approcher des créatures par ce par quoi on s'approche d'Allah, Allah, il s'éloigne d'Allah et les gens s'éloignent de lui aussi.
يعني لا يزيده تقربه إلى الخلق بما يقربه إلى الله إلا بعد من الله ومن الخلق.
C'est-à-dire le fait qu'il cherche à se rapprocher des gens par une chose qui normalement te rapproche d'Allah ne fait que l'éloigner d'Allah et des gens.
لأن الله إذا رضي عنك أرضى عنك الناس.
Car quand Allah est satisfait de toi, il fait que les gens sont contents de toi.
وَإِذَا سَخِطَ عَلَيْكَ أَسْخَطَ عَلَيْكَ النَّاسِ.
Et quand il est mécontent contre toi, il fait que les gens sont mécontents contre toi.
نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ سَخَطِهِ وَمِنْ عِقَابِهِ.
أَلْمُهِمُّ يَا أَخِي عَلِّجِ الْقَلْبَ دَائِمًا. Il dit l'important, c'est de, oh mon frère, c'est que tu soignes toujours ton cœur.
كُنْ دَائِمًا فِي غَسِيلٍ لِلْقَلْبِ حَتَّى يُطَهَّرْ.
Sois toujours en train de laver ton cœur jusqu'à ce qu'il se purifie.
كما قال الله عز وجل أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم.
Et Allah a dit dans le Coran, voici ceux dont Allah n'a pas voulu purifier les cœurs.
فتطهير القلب أمر مهم جدا. أسأل الله أن يطهر قلبي وقلوبكم وأن يجعلنا له مخلصين ولرسوله متبعين.
Il dit donc le fait de purifier le cœur est très important. Et il fait une dua, il dit, je demande à Allah qu'il purifie mon cœur et vos cœurs et qu'il nous fasse parmi les sincères et ceux qui suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Combien ça fait? 47. On passe au hadith suivant.
وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله متفق عليه.
Donc Abu Musa al-Ash'ari رضي الله عنه dit, on a posé la question au prophète صلى الله عليه وسلم à propos d'un homme qui combat par courage et un autre qui combat par hamiya, c'est l'affection envers quelque chose, et un homme qui combat par ostentation, lequel est dans le sentier d'Allah? Et il a répondu, celui qui combat pour que la parole d'Allah soit la plus haute, celui-là est dans le sentier d'Allah. C'est dans les deux sahih. Donc il dit, Shir, amma alladhi yuqatilu shaja'atan. Donc là, Shiri, il répète un peu ce qu'il y avait dans le... Il dit, فَأَمَّا الَّذِي يُقَاتِلُ شَجَاعَةً
فَمَعْنَاهُ أَنَّهُ رَجُلٌ شُجَاعٌ يُحِبُّ الْقِتَالِ لِأَنَّ الرَّجُلُ الشُّجَاعُ مُتَّصِفٌ بِالشَّجَاعَةِ وَالشَّجَاعَةُ لَا بُدَّ لَهَا مِنْ مِيدَانٍ تَظْهَرُ فِيهِ فَتَجِدُ الشُّجَاعَ يُحِبُّ أَنَّ اللَّهَ يُيَسِّرُ لَهُ قِتَالًا لِيُقَاتِلُ وَيَظْهَرَ شُجَاعَتُهُ فَهُوَ يُقَاتِلُ لِأَنَّهُ شُجَاعٌ يُحِبُّ الْقِتَالِ.
Cheikh, il dit, celui qui combat par courage, il dit, c'est parce que le courageux, il aime le combat. Et le courage, il a besoin d'un terrain pour s'extérioriser. Donc celui qui est courageux, il aimerait bien qu'Allah lui facilite un combat pour pouvoir y aller combattre. Donc c'est simplement par courage et parce qu'il aime le combat.
Al-thani yuqatilu hamiyatan.
L'autre, il combat par affection. Hamiyatan ala qawmiyah. affection envers son peuple, une nationalité. Hamiyatan ala qabila, pour sa tribu. Hamiyatan ala watan, pour sa nation. Hamiyatan li ayyi asabiyatin kanat, ou pour quelque sectarisme que ce soit.
الثالث يقاتل ليرى مكانه أي ليراه الناس ويعرف أنه شجاع فعدل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال كلمة موجزة ميزانا للقتال فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله.
Et l'autre, la personne, c'est le troisième, celui qui combat pour qu'on le voie, c'est-à-dire pour que les gens ils le connaissent et ils voient qu'il est courageux. Et le prophète صلى الله عليه وسلم a évité ces trois choses et a donné une réponse globale et une règle pour le combat en disant, et pour l'intention, une balance en disant, celui qui combat pour que la parole d'Allah soit la plus haute, celui-là est dans le sentier d'Allah.
Donc Cheikh dit Al-Muhim anna niyati ma la haddun lakin hadha al-mizan alladhi dhakarahu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam mizanun tamun adlun. ومن هنا نعلم أنه يجب أن نعدل اللهجة التي يتفوه بها اليوم كثير من الناس.
Il dit les intentions donc sont importantes et n'ont pas de limites, c'est-à-dire il y a plein d'intentions. On peut faire des choses pour plein d'intentions différentes. Mais le prophète a mis cette balance, cette règle-là pour connaître donc les intentions. Et c'est une balance complète et juste. Et il dit à partir de là, on voit qu'il faut corriger les langages que les gens prononcent aujourd'hui. Donc il dit al-lahja lahjatan, il parle de deux sortes de parler.
Lahjatu qawmin yuqatiluna lil-qawmiyyah, al-qawmiyyah al-arabiyyah wa al-qitalu lil-qawmiyyah al-arabiyyah qitalun jahili.
La première sorte de langage, c'est-à-dire que dont les gens parlent, c'est le fait de combattre pour al-qawmiyyah al-arabiyyah, c'est-à-dire le peuple arabe ou le nationalisme arabe. Il dit le fait de combattre pour le nationalisme arabe, c'est un combat jahili, pas islami, c'est-à-dire c'est un combat de l'époque qui est de même sorte que qui est digne de l'époque d'avant l'islam.
Man qutila fihi falaysa shahidan, celui qui est tué dans ce genre de combat n'est pas martyr. Faqad ad-dunya wa khasira al-akhirah,
il a perdu la vie d'ici-bas et la vie de l'au-delà.
لأن ذلك ليس في سبيل الله,
car ce n'est pas dans le sentier d'Allah.
ولذلك على الرغم من قوة الدعاية للقومية العربية لم نستفيد منها شيئا.
Il dit, malgré la forte, le fort, ce qui appelle fortement à être au nationalisme arabe, on n'en a rien profité. C'est-à-dire, Cheikh dit ensuite, on n'a rien profité de tout ça. Nos pays sont occupés par des non-musulmans et des non-arabes. Et Cheikh dit aussi ici que des gens qui ne sont pas musulmans, ils se sont instaurés et se sont mis avec des musulmans dans ce nationalisme arabe. Et qui sont des gens qui ne ramènent pas de bien. Et qu'Allah ne va pas nous secourir parce qu'ils sont avec nous, comme des chrétiens ou des communistes. Et ça, donc, c'est parce que le nationalisme arabe, il y a une certaine période où ça a été très. Toi, Abdelkader, tu as dû connaître l'époque. Moi, j'étais même pas encore converti avec Saddam Hussein. Comment il s'appelle, Jamal Awala en Égypte, Jamal Abdel Nasser, qui appelait au nationalisme arabe, alors que lui-même il appelait, je crois, c'était un communiste ou un socialiste. Donc c'était pas pour l'islam, c'était pour l'identité arabe et les peuples arabes. Je crois qu'il y avait aussi Saddam Hussein qui était dans ce truc-là, Kadhafi, mais c'était aussi pour le Qawmi al-Arabiya, c'est-à-dire un appel à l'identité arabe, sans parler d'islam, c'est-à-dire juste le fait d'être arabe.
Ensuite, il dit اللهجة الثانية قوم يقاتلون للوطن ونحن إذا قاتلنا من أجل الوطن لم يكن هناك فرق بيننا وبين الكافر لأنه أيضا يقاتل من أجل وطنه.
Le deuxième sort de parler qu'il faut corriger, c'est les gens qui disent combattre pour le pays, pour la nation. Il dit si on combat pour la nation, il n'y a pas de différence entre nous et le kafir, parce que le kafir aussi combat pour sa nation. C'est-à-dire que c'est pas un but dans le fait de combattre. Ensuite on passe. Cheikh parle des différentes sortes de djihad. Bon, on va s'arrêter là, inshallah. Sinon après on passe au hadith suivant. Donc on va s'arrêter là. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk.